Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Salut à toutes et à tous, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 décembre 2022. Il est 19h30 temps universel pour commencer le sommaire. C'était un roi, le roi du football, le roi Pelé est mort, sa famille l'a confirmé. Nous parlons de cette légende du ballon rond dans quelques instants avec Jules Valentin Goué, journaliste sportif. 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois au Mali sont jugés aujourd'hui à Bamako. Burkina Faso, arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, le parquet évoque une tentative de déstabilisation. À suivre aussi l'actualité économique, mais pour commencer, le journal. Le monde du football est en deuil, la nouvelle est tombée, Pelé est mort. Atteint d'un cancer et admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 29 novembre dernier, son état s'était aggravé, suscitant même des rumeurs. Cette fois, c'en est terminé, le rideau se referme sur la vie de ce Brésilien hors du commun qui aura marqué l'histoire de la planète football. Pour en parler, nous avons en direct le journaliste sportif Jules Valentin Goué. Salut Jules Valentin.
Bonsoir à tous.
Voilà, une première réaction, on vient d'apprendre le décès du roi Pelé. Une première réaction en tant que commentateur sportif.
Oui, mais ça c'est une véritable catastrophe pour le football mondial et toute la planète est pratiquement ébranlée, même si on attendait la nouvelle. Il est très difficile de parler du roi Pelé en quelques minutes, tant ses exploits et son influence sur le football planétaire sont immenses et incomparables, aussi bien dans sa mythique équipe de Santos qu'au Brésil et sur la planète intemporelle du football entier. C'est le plus jeune champion du monde à 17 ans. Il a été 3 fois champion du monde en 4 éditions successives. La seule qu'il n'a pas gagnée, c'est celle où il a été éliminé physiquement. C'est le joueur qui a inventé le poste mythique, le meneur du jeu, le fameux numéro 10 que nous connaissons, sans égal dans l'histoire de ce sport. Et à ce titre, 2 plaques commémoratives décorent l'entrée du stade mythique, lui aussi, de Maracana, où il s'est produit longtemps. Une qui parle d'un homme qui, en un match, a éliminé pratiquement sur un but toute une équipe en passant de ses obstacles, et l'autre qui rappelle est l'homme qui a dépassé le stade des 1000 buts. Et alors, vous voyez donc, et pour conclure, c'est le plus grand sportif du XXe siècle, selon tous les sondages, vraiment, c'est une très grande perte, mais Pelé ne peut pas mourir, en fait, Pelé reste dans nos mémoires.
Oui, Jules Valentin, il a joué à une période où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment de télévision, et puis son nom résonne toujours. Hein. Qu'est-ce qui explique cette longévité, la longévité de cette légende du football?
Mais c'est le caractère incomparable du joueur, c'est-à-dire la façon de jouer de Pelé. Et à cette époque, vous le dites très bien, ce n'était pas encore la mondialisation des médias, on n'avait pas encore tous ces supports. Mais je vous assure que ne serait-ce pas les tournées qu'il a faites, parce qu'on a pu garder et ce que la mémoire collective a transmis de génération en génération, c'est un joueur incomparable. Vous pouvez nous faire confiance, nous qui l'avons vu jouer, on l'a vu jouer et on a vu tous les autres lui succéder. C'est difficile à décrire. C'est vraiment sur tous les plans un footballeur extraordinaire. Et tout ce que vous allez interroger vont vous le dire.
Merci beaucoup, Jules Valentin Goué. On le rappelle donc, la légende du football, le roi Pelé, est mort aujourd'hui, sa famille l'a confirmé. La suite de l'actualité avec le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet, qui a été renvoyé à demain par la cour d'appel de Bamako. Nous avons joint notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko.
Oui, effectivement, on vient de quitter tout de suite la cour d'appel et nous avons attendu pendant 8 heures de temps, de 8 heures jusqu'à 16 heures passées. C'était l'audience des carenciers militaires. Ils sont arrivés très tôt ce matin aux environs de 8h45. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'au sortir de cette audience de 8 heures, les avocats n'ont pas voulu s'adresser à la presse. Aucune interview n'a été accordée et les carenciers militaires ont embarqué et ont été raccompagnés comme ils sont venus ce matin et à la cour d'appel. Mais ce qu'on a pu retenir aussi comme information, c'est que demain matin, vendredi à 9h, l'audience va reprendre. Et c'était prévu pour 2 jours, donc c'est sûr que certainement demain, on aura une information par rapport à ce qui va suivre, en tout cas, le sort de ces carenciers militaires-là. Et l'audience, c'est tout ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Mais nous avons attendu toute la journée, rien n'a filtré. Mais l'information qu'il faut retenir, c'est que demain encore à 9h, ça va reprendre.
Oui, Mohamed, est-ce qu'on peut savoir, vous dites que les avocats ne se sont pas adressés à la presse, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il semble y avoir une omerta autour de cette affaire, des informations?
Et justement, ça étonne tout le monde parce que déjà, on n'a pas eu même une information officielle pour dire que c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, qu'il y aura, et comment on appelle cette audience, il n'y a pas eu d'information officielle. Tout s'est passé comme si c'était caché. Et on a pu, de gauche à droite, récolter les informations et on est venu. Et ce matin, encore sur place, rien n'a filtré. D'ailleurs, les journalistes qui étaient dans la cour à attendre le début de l'audience ont été priés de regagner l'extérieur. Donc, aucun journaliste n'a pu, en tout cas, rester au sein de la cour d'appel. On était tous dehors. Et donc, c'est un peu ça. Donc, à la fin aussi, les avocats sont passés. On a tenté le tout pour le tout. On a voulu coincer certains avocats pour avoir ne serait-ce qu'un mot, mais aucun d'eux n'a voulu s'arrêter. Et donc, c'est aujourd'hui, comme vous le dites, une certaine omerta qui entoure et ce procès-là qui a lieu actuellement à la cour d'appel. Mais nous espérons que demain, à la fin de l'audience, nous aurons quelque chose et nous pourrons avoir des réactions de la part des avocats et, si possible, tout quand même pas du parti.
Au Burkina Faso, le parquet militaire a dénoncé une tentative de déstabilisation des institutions de l'État impliquant un haut gradé déjà incarcéré, récemment libéré, puis de nouveau arrêté. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Le parquet militaire indique dans un communiqué publié hier soir que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. Ce groupe serait en contact avec l'unité dite Mamba Vert du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana et qui projetait de lancer des attaques simultanées sur la radio-télévision du Burkina, la maison d'arrêt et de correction des armées ou MACA, où était détenu cet officier supérieur pour des faits similaires et la résidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, selon le procureur militaire. Le lieutenant-colonel Zungrana a été interpellé une première fois et incarcéré pour tentative de déstabilisation des institutions. Il a été remis en liberté provisoire le 15 décembre avant d'être à nouveau interpellé il y a 2 jours à son domicile à Pabré, au nord de Ouagadougou.
Des violents combats opposaient ce jeudi les rebelles du M23 aux membres d'une coalition de groupes d'autodéfense congolaise, selon des sources locales dans une zone où l'armée n'est pas présente, la coalition affirmant avoir tué 13 membres du M23. Les détonations d'armes lourdes et légères continuent à se faire entendre depuis le matin. Il n'y a pas de repos, a déclaré Safari Haguma, secrétaire de la société civile de Bouchouli, dans le groupement Tongo, joint depuis Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'armée congolaise n'est pas présente dans ce groupement de Tongo, dans le territoire de Rutshuru vers l'ouest. La coalition soupçonne le M23 de chercher à atteindre la localité de Bukombo et ainsi pouvoir foncer vers Kichanga, une zone qui débouche sur Goma, ville de plus d'un million d'habitants. Les autorités gambiennes ont livré ce jeudi pour la première fois des détails sur la tentative de coup d'État déjouée le 20 décembre à Bajoul et affirmant que ses auteurs avaient prévu d'arrêter des hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute tentative étrangère. Ils avaient également l'intention de retirer de leurs fonctions tous les officiers supérieurs de l'armée à partir du grade de major et au-dessus, ainsi que de restructurer les forces armées gambiennes à assurer Aboubakar Souleymane Jeng, le conseiller à la sécurité nationale qui a lu la déclaration devant les médias au quartier général de la défense à Banjul. Une commission d'enquête qui doit rendre son rapport dans un mois a été créée mardi en Gambie pour faire la lumière sur cette tentative de putsch présumé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir ce jeudi. Il va diriger le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays qui suscite déjà des inquiétudes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Vainqueur des législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahou a présenté dans la matinée son équipe aux députés. Il a annoncé la nomination de l'ex-ministre du renseignement, Eli Cohen, à la tête des affaires étrangères. Hier, il avait indiqué que le poste de ministre de la Défense reviendrait à Yoav Galan, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée. La mission du gouvernement sera de contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire, d'assurer la supériorité militaire d'Israël dans la région, tout en élargissant le cercle de la paix avec les pays arabes, a déclaré M. Netanyahou au Parlement. Âgé de 73 ans et inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, le chef du Likoud avait été chassé du pouvoir en juin 2021 par une coalition hétéroclite avant de promettre un retour aux affaires en s'alliant avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Sa coalition comprend une formation connue pour ses propos anti-palestiniens et favorable à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie et d'un parti ouvertement anti-homosexuel. Des centaines de personnes, dont plusieurs arborant le drapeau arc-en-ciel, ont manifesté ce jeudi devant le Parlement contre ce nouveau gouvernement.
À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Nani Talen.
Au Congo-Brazzaville, le PRODIVAC, projet de développement intégral des chaînes de valeurs agricoles, a fixé son budget 2023 à 16,553 millions de francs CFA. Les activités seront concentrées autour des conventions de financement avec les institutions nationales et internationales et la signature des partenariats avec des structures privées comme Saris Congo. L'accent sera également mis sur la réhabilitation des pistes agricoles dans les plateaux, le Poule et la Bouenza. Les producteurs auront accès à des semences et à un fonds bancaire. Le canal de Suez en Égypte accueillera favorablement les investissements étrangers, mais les étrangers n'auront aucun contrôle sur la voie navigable ou sur un projet de fonds qui aiderait à gérer ses ressources, a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi. Terminons par la Zambie qui n'a pas encore discuté des propositions de restructuration de la dette avec les créanciers bilatéraux. Ces propositions doivent encore être discutées avec les 10 créanciers dans le cadre du processus multilatéral du cadre commun, a annoncé le ministère zambien des Finances.
L'actualité sportive ce jour, c'est avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Bonsoir Oumfa, bonsoir à tous.
Match amical entre l'équipe A des Léopards de la RDC et les Diables Rouges du Congo au stade des Martyrs de Kinshasa ce 30 décembre.
Oui, cette rencontre des Léopards du Congo Kinshasa et des Diables Rouges du Congo Brazzaville au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de leur préparatif pour la phase finale de la 7e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier en Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué du secrétariat général de la FECOFOOT. Selon la dépêche de Brazzaville, cette préparation vise à reconstruire la base physique des joueurs et à évaluer leurs capacités techniques afin de permettre au staff de concocter la liste des joueurs qui seront retenus pour la phase finale.
CHAN 2022 toujours, la liste des éléphants locaux est connue.
Oui, le sélectionneur ivoirien Soalio Aïdara a dévoilé déjà une liste composée de 25 joueurs en vue du championnat d'Afrique des Nations du football 2022. Ces 25 joueurs sont en regroupement fermé depuis le 26 décembre à Yamoussoukro. Selon Africa Sports, ils iront en Tunisie où ils seront en stage pour quelques jours avant de se rendre en Algérie, pays hôte du CHAN.
Football scolaire enfin, la FEMAFOOT offre 260 ballons aux académies d'enseignement du Mali.
Oui, pour développer le football scolaire au Mali, le comité exécutif de la Fédération malienne de football, en collaboration avec la CAF, a offert 260 ballons aux différentes académies d'enseignement du Mali. Selon le premier vice-président de la FEMAFOOT, Kassoum Koulibaly, ce don de ballon permettra aux académies de pratiquer le football et de participer au développement de la discipline à la base ainsi qu'à l'épanouissement des enfants tout en cultivant en eux la passion du foot. Pour le représentant du directeur national de l'enseignement fondamental, Almami Ibrahim Nyono, cette initiative permettra aux académies d'éduquer et de protéger les enfants à travers la pratique du football. La cérémonie de ce don a eu lieu le 25 décembre sous la présidence du premier vice-président Kassoum Koulibaly.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Plusieurs membres du gouvernement gabonais étaient ici à Washington lors du récent sommet États-Unis-Afrique. Nathalie Barge s'est entretenue avec le ministre d'État chargé de l'industrie, Pacom Mubele Boubeya, et avec Hugues Madimba Madia, ministre de la promotion des investissements et du partenariat public-privé.
Lors de la rencontre, les participants ont exprimé leur volonté de travailler avec les États-Unis. Le ministre de l'Industrie gabonais, Pacom Mubele Boubeya, a insisté sur la transformation des produits pour ajouter de la valeur et créer des emplois.
Il y a beaucoup de points de convergence, beaucoup de points d'alignement et de soutien sur lesquels nous pourrions encore renforcer les domaines d'investissement, que ce soit dans le domaine de la transformation. Et quand je dis transformation, c'est tout type de transformation. C'est-à-dire comment appuyer par des financements au niveau même des marchés financiers américains, les efforts d'investissement gabonais. Comment faire en sorte surtout que l'on puisse profiter réciproquement de l'expérience, de l'expertise des uns et des autres.
Monsieur Mubele Boubeya a rappelé que le Gabon n'exporte plus de grumes depuis 2010.
Ce qui a abouti à la mise en place de zones économiques spéciales, y compris une spécialement dédiée à la transformation du bois. On a vu ainsi le Gabon partir d'exportateur à aujourd'hui devenir le deuxième producteur de contreplaqué au monde, premier en Afrique. Ce qui veut dire que cette vision, cette politique de mise en œuvre prônée par les plus hautes autorités du pays est celle qu'il faut. Il faut à tout prix transformer pour ajouter plus de valeur, créer plus d'emplois.
Le ministre de la promotion des investissements, Hugues Mbadinga Madia, a lui aussi mis l'accent sur le plan d'accélération de la transformation du Gabon.
Ce plan représente un portefeuille d'investissement qui est l'équivalent de 3 000 milliards de francs CFA, donc 6 milliards de dollars, dans divers secteurs. Les secteurs productifs, le bois, qui est un secteur essentiel, l'agriculture, la pêche, et aussi nos secteurs traditionnels comme le pétrole, le mine, mais aussi des besoins importants dans le domaine des infrastructures. L'énergie, sans laquelle il n'y a pas de croissance, mais aussi tout ce qui est infrastructure routière, ferroviaire, etc.
Selon M. Mbadinga Madia, les deux tiers de ce montant doivent s'exécuter par le biais des investissements directs étrangers et nationaux avec des partenariats publics-privés.
Nous avons également ouvert la possibilité dans certains secteurs comme l'énergie avec des codes particuliers à permettre notamment des producteurs indépendants d'énergie qui permet de faire entrer des investisseurs sous le mode de partenariat public-privé. Notre pays, le Gabon, est prêt pour user justement de cette modalité. La loi est prête, les portefeuilles de projets également est prêts. Nous attendons et sommes ouverts aux investisseurs qui veulent venir au Gabon et faire des partenariats publics-privés.
Le Gabon a mis en place des initiatives de valorisation des terres cultivables pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et a mis à disposition 25 à 28 000 hectares de terres arables. Bien que l'agriculture soit une nécessité pour le pays, il s'agit de la développer sans déforestation, estime le gouvernement gabonais, rappelant que le pays fait partie de la grande forêt du bassin du Congo, devenu le premier poumon de la planète devant l'Amazonie. Nathalie Barge, VOA Afrique à Washington.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre, les poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, le dialogue interguinéen, sont quelques faits qui ont marqué l'année 2022. Voici la rétrospective de l'année avec des réactions des Guinéens au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
C'est le mercredi 28 septembre 2022 que les autorités judiciaires guinéennes ont annoncé l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Un soulagement pour les victimes, mais aussi un signal fort contre l'impunité des crimes de sang.
Je pense que c'est l'un des événements les plus marquants de l'année 2022. Et l'ouverture de ce procès, ça a été un fait inédit dans notre histoire. Moi, je n'y croyais pas jusqu'à ce que, véritablement, je me suis rendu compte que nous sommes face à l'évidence. Et je trouve que les autorités du CNRD ont quand même eu à faire un formidable travail. La volonté politique a été totale. Et maintenant, espérons que toutes les parties engagées puissent quand même être à la hauteur des enjeux.
Personne ne pouvait croire qu'en un temps record, avec l'arrivée de la junte au pouvoir suite au coup d'État, qu'on pouvait ouvrir ce procès qui a été tant attendu. Vous savez que ça a été l'une quand même des réclamations pressantes des victimes pendant le régime de faim.
La junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 a promis de faire de la justice la boussole qui doit orienter les Guinéens. Le 4 mai, le procureur général annonce des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables sous sa présidence. Condé est jugé en Guinée, ce citoyen n'y croit pas.
Je veux dire que c'est une peine perdue aujourd'hui. Parce que Alpha Condé, il était là à Conakry, on l'a laissé sortir pour aller en Turquie et après le poursuivre. C'est comme si vous étiez en train de faire le procès d'une personne déjà qui était morte. Moi, je pense que ça n'a aucun sens parce que aujourd'hui, on ne peut plus récupérer Alpha Condé. Et même si aujourd'hui, il y a des poursuites judiciaires contre sa personne et le gel aussi de ses comptes, moi, je pense que Alpha Condé, il est tranquille là où il est. Et cette justice, il n'y aura pas de suite.
Plusieurs acteurs politiques sont visés par des procédures judiciaires, des actions de la justice guinéenne qui ont poussé certains partis politiques à bouder le dialogue politique recommandé par la CEDEAO. Mamadou Diallo livre sa compréhension de cette situation.
Je pense aujourd'hui que le dialogue a été fait sans les grandes coalitions politiques du pays. C'est un fait, puisque ces coalitions politiques du pays avaient des préalables qui n'ont pas été remplis. Mais je pense que ce dialogue a quand même un avantage, c'est que parmi les recommandations, il y a celle qui a retenu mon attention, c'est celle quand même de permettre la décrispation de la situation politique, de la situation de crise politique dans le pays. C'est le fait de mettre ceux qui sont en prison sous contrôle judiciaire, permettre aux leaders comme Dalain Sidia et tant d'autres de rentrer au pays et faire face à la justice guinéenne.
Les militaires au pouvoir en Guinée ont accepté d'organiser des élections au bout de 2 ans. Mais si la CEDEAO est d'accord, la question sur la date du début du chronogramme reste sans réponse claire. Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée.
La mise en œuvre des 10 points démarre à partir de là-bas. Est-ce que c'est à partir de l'accord entre les experts de la CEDEAO et le CNRD? Est-ce que c'est à partir du sommet? Mais ils ont ouvert une sorte de presse qui appelle au CNRD d'engager un véritable dialogue entre les acteurs qui sont opposés à sa gestion pour que ce terme immédiatement-là puisse être acté entre les Guinéens. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez déjà les résolutions des échanges en séminaire d'un mois qui sont passés entre certains acteurs et le CNRD, vous comprenez qu'ils ont dit dedans qu'ils ont ouvert les candidatures à l'élection présidentielle jusqu'au 31 décembre 2024. Cela veut dire qu'ils ont ouvert les brèches vers un glissement au-delà de 2 ans, plus que pourquoi pas 3 ans. Donc une fois encore, cet accord a été une contrainte pour le CNRD, mais ils ne veulent absolument pas s'il faut aller dans le sens. Ce qui concerne aujourd'hui le CNRD, c'est comment ils peuvent gagner le maximum de temps dans les privilèges du pouvoir.
Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
En Israël, le retour de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre est salué par ses partisans. Mais du côté palestinien, l'arrivée de cette coalition qui prend le pouvoir à Tel Aviv avec un parti qui milite ouvertement pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie suscite des inquiétudes. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Tunis le journaliste palestinien Bassel Torjman. Abdourahman Dia, donc, le journaliste palestinien Bassel Torjman est au micro de Abdourahman Dia.
Premièrement, c'est inquiétant, pas pour moi, mais pour tout le monde. Mais ce n'est pas une inquiétude pour la processus de paix, parce qu'il n'y a plus de processus de paix au Moyen-Orient. Ça fait longtemps, maintenant, ça fait 30 ans après la signature de l'accord d'Oslo, il n'avait jamais fait. C'est une situation statico. Et malheureusement, les grandes puissances, spécialement les États-Unis, n'ont pas été sérieux ni pris en considération de trouver une solution finale et pousser les deux parties, les Palestiniens et Israéliens, à signer un accord de paix final.
La coalition qui arrive au pouvoir en Israël comprend un parti qui s'exprime ouvertement pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Est-ce que vous pensez que les pays occidentaux comme les États-Unis, l'Union européenne peut-être, devraient s'exprimer ouvertement sur cette question?
Oui, oui, ils vont rien faire. Ils vont juste rester sur des regrets, mais pas aller vers une condamnation ou bien utiliser la charte de Conseil de sécurité des Nations Unies pour pousser Israël à changer ses points de vue.
Vous dénoncez ce que vous considérez comme une inaction des pays occidentaux, mais Israël est également en train de se rapprocher de certains pays arabes à travers les accords d'Abraham.
Le problème, ce n'est pas la position des pays arabes. Le problème, c'est la décision israélienne et les conséquences de cette décision sur les accords de paix. Quelle paix peuvent les pays arabes accepter, et le peuple dans ce pays arabe avaler ça dans une situation où Israël va dire que fait pris des décisions qui va toucher le fond de processus de paix au Moyen-Orient?
Le nouveau, en tout cas le Likoud qui revient au pouvoir a quand même dit qu'il ne toucherait pas au statut des lieux saints. Que, pour le cas de Jérusalem, ça vous rassure un peu?
C'est pour la consommation dans le média. Et maintenant, on va voir les conséquences. Et c'est ça le truc qui est très inquiétant.
C'était le journaliste palestinien Bassel Torjman, joint à Tunis par Abdourahman Dia.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sous la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Mouamadou Oumfa, je vous souhaite une bonne fin d'année à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. The snow comes down.
Terre.